et dans le chapitre qui est toujours consacré à la théologie protestante, nous avons fait l'inventaire de tout ce que la théologie recouvre. Nous faisions l'inventaire de tout ce que la théologie recouvre, et nous avons arrêté à la dogmatique et l'éthique. Et maintenant, nous abordons un nouveau sujet, les rapports entre philosophie et théologie. La théologie scolastique du Moyen-Âge était une théologie qui était fortement teintée de philosophie. C'était le résultat, en particulier, de la synthèse qui avait été effectuée par le grand penseur Thomas d'Aquin, qui avait adapté la philosophie d'Aristote en particulier à un système théologique tout à fait cohérent qui, jusqu'à aujourd'hui, est le système de référence qu'on trouve en milieu catholique. Les réformateurs, dans la mesure où ils remettaient en question bien des acquis de l'Église du Moyen-Âge, ont été amenés aussi à remettre en question la théologie scolastique avec la philosophie d'Aristote qui la sous-tendait. Au départ, leur démarche étant profondément biblique, ils ont été amenés à s'élever contre justement une théologie qui aurait été sous-tendue par une philosophie quelle qu'elle soit. Les réformateurs étaient des gens qui étaient profondément allergiques, si l'on peut dire, et hostiles à toute démarche philosophique, parce qu'ils estimaient avec raison que cette démarche philosophique était dans son essence contraire à la révélation. Et par la suite, c'est toujours la même chose finalement, quand le réveil s'éteint, on philosophe. Et le réveil de la réforme, parce que c'en était un, n'a pas échappé à cette loi générale. Très vite, les successeurs des réformateurs ont conclu que la philosophie était finalement l'expression d'une culture et qu'il était nécessaire d'accommoder la théologie avec la philosophie dominante de leur époque. Et la plaie de la théologie protestante depuis cette époque-là, c'est-à-dire depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos jours, vient précisément de cet effort constant des théologiens protestants d'accommoder la théologie avec les philosophies dominantes. La première dérive a eu lieu au XVIIIe siècle, l'époque dite de la philosophie des Lumières, lorsque sont apparus les théistes en particulier, grands philosophes français, par exemple, comme Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot, etc. Et les théologiens protestants, influencés par cette fameuse philosophie des dites des Lumières, qui est plutôt ténèbres, on pourrait plutôt l'appeler philosophie des ténèbres, en fait, mais ces gens-là, qui n'étaient pas modestes, croyaient qu'ils apportaient la lumière. Et là, nous avons déjà donc le départ, le point de départ du libéralisme théologique, dont l'un des grands philosophes laïcs d'ailleurs de cette époque-là, de cette époque des Lumières, sera justement un protestant, Jean-Jacques Rousseau, de l'origine protestante. Et Jean-Jacques Rousseau est un homme qui va marquer toute la philosophie depuis son époque jusqu'à aujourd'hui, philosophie laïque. Et va aussi marquer la théologie protestante. Toute la théologie protestante ne trouve d'explication aujourd'hui que par la philosophie de Jean-Jacques Rousseau. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Lorsque, dans le protestantisme, vont surgir des réveils, il faudrait continuer dans cette pensée, donc pour parler du 19e, en particulier la théologie de Kant. Kant, la philosophie de Kant, pardon, qui va profondément marquer la pensée théologique protestante, notamment en Allemagne, puisque Kant est un Allemand. Et plus près de nous, évidemment, il y a tous les philosophes du 19e, dont Marx n'est pas le dernier, pas, qui ont exercé et qui exercent encore une influence déterminante sur la théologie protestante. Maintenant, les réveils, lorsqu'ils surgissent, refont toujours la démarche inverse, c'est-à-dire que l'on place comme réalité première non pas une philosophie qui serait une spéculation humaine, mais la révélation de Dieu. Et la révélation de Dieu demande que la réflexion humaine, la spéculation humaine s'efface. Mais lorsque le réveil s'arrête, et c'est tout à fait typique de voir qu'un réveil s'arrête à partir du jour où on crée une école biblique. À partir du moment où un mouvement religieux qui a été visité par un réveil crée une école biblique, alors on peut être sûr que le réveil est fini. Le réveil est éteint. Et précisément, l'école biblique, ou l'institut de théologie, ou tout ce qu'on voudra, même lorsqu'on le veut évangélique, même lorsqu'on le veut biblique, suit toujours la même évolution. Et l'évolution, c'est celle-ci, au bout d'un temps, substituer la réflexion et la spéculation humaine, donc la philosophie, à la révélation de Dieu. Baudelaire explique bien ça, lui qui a été enseignant, n'est-ce pas, professeur pendant la plus grande partie de son ministère dans une école biblique. Professeur très particulier, bien sûr. Et à la fin de sa vie, il nous disait, quand il était la dernière fois en France, qu'il avait donné, il venait juste de donner sa démission de l'école biblique dans laquelle il avait été pendant des années, parce que justement, il s'était rendu compte que l'évolution pratiquement inévitable avait pris naissance. Il dit, on préfère maintenant l'éducation que le réveil. On préfère la réflexion humaine, la spéculation humaine plutôt que la révélation de Dieu. Alors, c'était devenu pour lui quelque chose d'insupportable, il avait donné sa démission. Mais ça, c'est la démarche, je dirais presque obligée. Parce que l'école publique qui se veut effort de réflexion, donc théologique, est pratiquement tôt ou tard obligée d'arriver à concevoir un système théologique. Donc, philosophique. Car il se rend compte que derrière un système, quel qu'il soit, un système de pensée, il y a une philosophie. Une philosophie qui est sous-jacente, qui parfois est inconsciente. Et c'est par exemple la démarche d'un homme comme le professeur Henri Blocher, auquel je suis gentiment accroché dans une expérience, et avec lequel j'ai eu justement une correspondance fraternelle il y a un certain nombre d'années, parce qu'il avait réagi assez fortement à l'article à ce sujet-là. Et Henri Blocher disait ceci: il y a derrière nos systèmes doctrinaux évangéliques, parce que dans les milieux évangéliques on n'emploie pas le mot théologique, ça ne veut pas dire que la réalité n'y est pas. Mais, disait-il, donc derrière nos systèmes doctrinaux, il y a une philosophie inconsciente. Moi, j'ai choisi plutôt que de fermer les yeux sur cette réalité d'une philosophie inconsciente, j'ai choisi d'être conscient que j'avais une philosophie et d'exprimer, j'ai choisi d'exprimer cette philosophie. Et à la faculté évangélique de théologie de Vaud, sur Seine, qui est la faculté de théologie évangélique de France, il enseigne la philosophie. On trouve maintenant donc des cours de philosophie dans une faculté de théologie évangélique. Alors, ne parlons pas des facultés de théologie réformées luthériennes, où depuis très très longtemps, il y a des chaires de théologie, de philologie. Alors, dirons-nous, que vaut le raisonnement du professeur Blocher? Est-ce qu'effectivement nous avons une théologie inconsciente? Oui, sûrement. À partir du moment où nous sortons du cadre de la révélation de Dieu, c'est sûr. À partir du moment où nous cherchons à systématiser, mais lorsque nous regardons la Bible, justement, ce qui est remarquable, c'est que la Bible n'est pas un traité de philosophie, de théologie systématique. Il n'y a pas de système biblique. La Bible, à la limite, dirions-nous, n'est pas logique. Elle n'offre pas un tout cohérent que recherchent les esprits cartésiens des occidentaux que nous sommes. Ça, non. Et c'est ce qui fait problème, souvent, justement, pour les occidentaux cartésiens. C'est qu'il n'y a pas, justement, cette logique cartésienne à laquelle on est habitué et à laquelle nos systèmes philosophiques nous ont habitués. Alors, bien sûr, quand on veut réduire la Bible à un tel système, automatiquement, on va adopter une philosophie. Alors, quelle est la solution ? Eh bien, ne pas chercher à faire un système de la Bible. La prendre telle qu'elle, comme la révélation de Dieu. Mais ce faisant, dans la vie courante, nous aurons peut-être une philosophie, mais nous saurons que celle-ci n'a aucune valeur au niveau de la révélation, qu'elle est simplement le résultat d'une culture, et par conséquent, qu'elle doit être, le cas échéant, remise en question par la révélation biblique, lorsqu'elle se heurte à cette révélation, et lorsque la révélation de Dieu la contredit. Bien sûr, nous sommes tributaires des philosophies de notre temps. Bien sûr, nous sommes modelés par l'esprit cartésien occidental, nous ne pouvons pas y échapper. Mais dans une réelle mouvance de l'Esprit Saint, dans une vie de l'Esprit véritable, l'Esprit Saint, justement, nous amène à dépasser ces systèmes dans lesquels nous sommes enfermés par notre culture. L'Esprit Saint nous conduit dans un véritable déconditionnement par rapport à ces choses-là. Et soudain, nous réalisons que Dieu est autre chose, que Dieu est beaucoup plus grand, que Dieu ne se laisse pas enfermer, justement, dans la logique humaine qui est la nôtre, ou qui est celle de ceux qui nous ont précédés, ou qui sera celle de maintenant ceux qui nous suivront. Alors, c'est pourquoi philosophie et théologie, plutôt la théologie qui est quand même, finalement, une philosophie religieuse. C'est pourquoi, finalement, la théologie, au sens biblique du terme, n'est pas quelque chose, plutôt n'est pas quelque chose qui est biblique. C'est un produit humain. Nous ne trouvons aucun théologien dans la vie. Les prophètes, ils sont tout le contraire de théologie. Les apôtres, on a prétendu que Paul l'était. Mais il est certain que Paul ne se situe absolument pas comme théologien, comme docteur de l'Écriture, certainement, mais comme docteur au sens spirituel, au sens charismatique du terme, ce qui est bien autre chose. Alors, voilà, si vous voulez, comment on peut apprécier ce rapport entre philosophie et théologie. Au moment même où on veut une théologie qui sera dégagé de tout système philosophique, à terme, on retrouve toujours un système philosophique. Ce qui prouve que dans la notion même de théologie, il y a quelque chose qui est intrinsèquement pétraire. Dans la démarche théologique, il y a quelque chose qui est intrinsèquement antibiblique. Et c'est pourquoi, précisément, nous avons besoin, en tant que chrétiens évangéliques qui voulons nous laisser conduire par l'Esprit Saint, d'avoir une autre approche de la vie que l'approche théologique qui est la règle générale aujourd'hui dans nos pays occidentaux et dans l'Église de Jésus-Christ en général, et finalement qui est tellement mal, que ce soit au niveau catholique, où nous sommes au niveau protestant, ou nous sommes au niveau orthodoxe. Bien, toujours dans le domaine de la théologie protestante, nous trouvons une autre matière aussi qui va de pair avec la théologie, ce sont les sciences historiques. Bon, il est certain que dans la mesure où le christianisme, l'évangile, est une réalité historique, la parole de Dieu est une parole qui s'est incarnée dans l'histoire des hommes. Jésus-Christ est venu lorsque la plénitude des temps était accomplie, dira l'apôtre Paul, la 15e année du règne de Tibère César, etc. Donc, il est certain que toute étude de la Bible ne pourra pas faire l'abstraction d'histoire. L'histoire, c'est en quelque sorte l'école à laquelle Dieu soumet les hommes. C'est dans le cadre de l'histoire des hommes que se déploie la geste de Dieu, au sens où l'on parlait, on employait ce mot au Moyen-Âge, vous savez, la geste de Roland, etc. Et bien c'est dans l'histoire que on trouve les hauts faits de Dieu. C'est dans l'histoire que Dieu parle. Et il est tout à fait normal que, au départ, le protestantisme, qui se voulait un mouvement de retour à la Bible, privilégie d'une manière particulière l'histoire. Que ce soit une histoire biblique, ou bien que ce soit l'histoire de l'Église. Et ce sont des protestants qui ont été les premiers à travailler sur l'histoire du Proche-Orient, ancien en particulier, dans le domaine archéologique, par exemple, au siècle dernier, déjà à la fin du XVIIIe, à partir de Napoléon, si vous voulez, donc l'expédition d'Égypte, ben, c'est la redécouverte de l'Orient, de l'histoire ancienne, de ces régions-là, et non plus simplement l'histoire classique de la Grèce et de Rome, mais pour des raisons essentiellement spirituelles. Pas seulement pour des raisons de culture, mais pour des raisons spirituelles. Et souvent, c'était les protestants qui étaient à l'origine de cette recherche, précisément pour mieux comprendre la Bible, pour mieux comprendre ce geste de Dieu dans l'histoire des hommes. Et depuis lors, les sciences de l'histoire de la Bible se sont considérablement développées. Nous avons d'abord, je vais le citer bien à l'instant, l'archéologie. Par exemple, le père de l'archéologie israélienne, qui est Holbrooke, qui commence avant Holbrooke, qui était le fils d'un pasteur méthodiste. Nous avons de nombreux. Ernest Wright, un américain, était aussi un pasteur lui-même, je crois. Ou aussi un petit pasteur, enfin, il avait affaire avec. Très intense avec un autre pasteur. À côté de l'archéologie proprement dite, se sont développées d'autres sciences bibliques, par exemple la linguistique, l'étude des langues anciennes, avec l'étude des textes bibliques, des manuscrits, pas, des travaux considérables ont été faits, notamment dans les milieux protestants, sur le texte biblique. Des savants ont passé l'essentiel de leur vie, des dizaines et des dizaines d'années de leur vie, à comparer les différents manuscrits entre eux, à compter les variantes, n'est-ce pas, comment dans tel manuscrit ce mot s'écrivait de telle manière et dans tel manuscrit ça s'écrivait de telle autre manière. Il a compté le nombre de manuscrits dans lesquels il y avait cette forme grammaticale-là, dans quels autres manuscrits il y en avait d'autres. On pourrait me dire à quoi ça sert, à quoi ça nous sert. Il est certain que on peut dire que c'était un travail absolument fastidieux qui ne servait strictement à rien, mais ça nous sert tout simplement à ceci, c'est que nous avons aujourd'hui un texte de la Bible qui est le plus sûr qui soit de tous les manuscrits anciens. Que l'on prenne par exemple des textes comme, je ne sais pas, moi, les œuvres de Cicéron ou de Virgile ou d'autres, en tout cas, certain que l'authenticité, l'exactitude de ces textes est sans aucune comparaison avec l'exactitude du texte biblique, parce que justement des générations et des générations de savants ont passé l'essentiel de leur vie à le travailler, n'est-ce pas, pour nous le donner le plus proche possible de l'original. L'original hébreu pour l'Ancien Testament, l'original grec pour le Nouveau Testament. Et nous avons aujourd'hui, grâce à ces travaux, n'est-ce pas, des textes d'une très très grande certitude, d'autant que au début du siècle, vous le savez, dans les années 40, on a fait cette découverte extraordinaire de manuscrits de la mer Morte, qui est venue apporter de nouvelles confirmations, justement, dans ce domaine-là. Nous avons aussi une autre science historique qu'on appelle l'épigraphie. Ça se rapproche de cette étude des manuscrits. C'est l'étude des manuscrits également, mais non plus des manuscrits bibliques. directement de tout ce qui est écrit ancien, que ce soit les manuscrits, que ce soit les inscriptions sur la pierre, que ce soit les inscriptions sur des tessons de poterie, que ce soit des inscriptions sur des tablettes, sur des papyrus, sur tout ce qu'on voudra. Et il s'agit, dans la spécialité que l'on confond souvent avec l'archéologie, n'est-ce pas ? On englobe tout ça sous le terme général d'archéologie, en fait, ce sont deux spéciales différentes, n'est-ce pas ? L'épigraphie, c'est vraiment l'étude de toutes les inscriptions anciennes. Et on compare ces inscriptions anciennes avec les écrits de la Bible. Et cette étude des manuscrits anciens nous permet de mieux connaître le contexte social, historique, économique, culturel, dans lequel la Bible a pris naissance. Par exemple, lorsque l'on a découvert dans les années 30, n'est-ce pas, fin des années 30, les manuscrits d'Ougarit, à Rachamra en Syrie, on a découvert un type de poésie qui était proche, par exemple, de la poésie hébraïque qu'on trouve notamment dans les psaumes. Par exemple, dans les cantiques anciens qu'on trouve dans l'Ancien Testament, tel le cantique de Déborah que nous avons étudié il y a quelque temps, le cantique de la mer, le cantique de David, etc. Bon, on trouve le même type de poésie. Ça nous permet de comprendre parfois un certain nombre d'expressions de ces textes poétiques qui seraient obscurs, qui resteraient obscurs pour nous, ça, mais qui précisément, grâce à la comparaison avec ces manuscrits anciens, nous les rendent aujourd'hui beaucoup plus compréhensibles. On a aussi l'étude alors des sceaux anciens. C'est tout aussi, c'est une science. Vous savez, les sceaux des rois, etc., des grands personnages qu'on peut mettre partout. On a aussi une discipline tout à fait particulière qui est l'étude des poteries. Alors ça, c'est un travail aussi extrêmement fastidieux. Comparer les différentes poteries les unes aux autres, voir de quelle forme, en quelle forme ça évolue, n'est-ce pas, tel type de poterie descend de tel autre de type de poterie, alors a été trouvé dans tel endroit, donc on sait que ça a été fabriqué là, etc. Bon, c'est toute une science extrêmement importante au niveau archéologique, n'est-ce pas, pour pouvoir se retrouver justement dans ces études-là. Alors, pour pouvoir accomplir ce genre de travaux, souvent, les grandes églises ont créé des instituts spéciaux. Notamment, justement, en Terre Sainte. Outre les grands musées nationaux qui sont laïcs, qui ont été créés par les États, par exemple le musée du Louvre en France, le British Museum en Angleterre, un des plus célèbres, puis finalement, dans chaque pays aujourd'hui, il y a des musées de ce type, ça. Musée des Antiquités, où sont gardées les antiquités, et un travail justement sur les documents qui sont posés là. Par exemple, en France, c'est l'Académie des sciences et belles lettres, n'est-ce pas, qui s'occupe de ce genre de travail. Mais les églises elles-mêmes ont été amenées à créer, notamment au niveau du protestantisme, des instituts de recherche historique et archéologique. C'est ainsi, par exemple, que les églises anglaises, plusieurs églises anglaises se sont groupées pour créer au début du siècle à Jérusalem ce qu'on appelle the American School of Oriental Research. Ça s'est dit avec l'accent, bien entendu. Donc, École américaine des recherches orientales. Nous avons l'équivalent donc au niveau des églises anglaises, dont Holbrooke justement était le président jusqu'à sa mort. Holbrooke, on peut dire le père de l'archéologie israélienne, n'est-ce pas ? Les catholiques n'ont pas voulu être en reste et ils ont créé à Jérusalem toujours l'école biblique qui est dirigée par les dominicains et dont le père Roland Devaux, une des plus grandes figures. Voilà. Et puis les juifs également, n'est-ce pas, ont fait du mouvement pour les mêmes raisons, par un intérêt spirituel pour mieux comprendre la Bible. Et tous ces différents travaux qui ont été effectués par ces institutions, n'est-ce pas, s'ajoutant aux travaux qui ont été faits dans les institutions laïques, ont aussi, depuis deux siècles, complètement révolutionné notre connaissance de l'histoire biblique. Et dans la plupart des cas, il faut bien le dire, ça a été la grande, grande surprise, là, au siècle dernier en particulier, confirmant ce que la Bible nous disait. Et c'est ainsi que un des grands participants de cette œuvre-là a écrit ce livre remarquable, La Bible à Détroit, qui a intitulé La Bible à Détroit. Alors, bien entendu, il y a des problèmes encore, mais en gros, c'était ça. Bien, ensuite, nous avons, toujours dans le domaine des sciences historiques, une autre histoire, une petite histoire qui est aussi étudiée dans les principales facultés de théologie, c'est l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église, parce que précisément, là, ça nous permet de comprendre l'évolution de l'Église depuis les origines jusqu'à nos jours, et dans un contexte protestant, dans la mesure où la démarche protestante est un retour aux sources, un retour à l'Église des premiers siècles, essayer de comprendre les raisons des déviations que l'on trouve dans l'histoire de l'Église, et finalement, essayer de les éviter pour l'avenir, tout en les corrigeant dans le présent. Voilà, si vous voulez, dont on pourrait dire que le protestantisme voit l'intérêt d'une étude de l'histoire de l'Église. Alors l'histoire de l'Église est elle-même divisée en un certain nombre de disciplines annexes. La première et la plus importante, c'est la patristique, c'est-à-dire l'histoire de l'étude des pères de l'Église. Donc, si vous voulez, l'Église chrétienne à partir du deuxième, 4e, 5e siècle, en gros, à peu près ce que nous faisons nous actuellement, nous avons abordé. Nous avons, oui, ça va ? Oui, du 2e au 5e siècle, en gros. Puis ensuite, nous trouvons l'histoire de l'Église du Moyen-Âge, avec toute l'époque, toute la grande époque, si vous voulez, de la scolastique. Et ça aussi, la scolastique, c'est évidemment un monde. Et c'est une spécialité. Vous avez des historiens d'histoire de l'Église qui sont spécialisés dans l'étude de la scolastique. C'est pas particulièrement passionnant. Nous allons en parler en histoire de l'Église. Et puis ensuite, on a l'époque moderne. Et puis, il y a le temps des réformes. Alors, il y a une autre division de la théologie protestante, c'est ce qu'on appelle la théologie pratique. Finalement, la théologie pratique, c'est une discipline qui se veut l'aboutissement des autres types de recherches. Et qui cherche à tirer les conséquences pratiques dans la vie de l'Église, aujourd'hui, de ce que les autres spécialistes ont élaboré. Aujourd'hui, n'est-ce pas, la théologie pratique en milieu protestant fait beaucoup appel aux sciences humaines modernes, notamment la psychologie, la sociologie, les techniques de communication, etc., etc. Ce qui est, à mon sens, loin d'être idéal comme démarche. La fin, finalement, que se propose d'atteindre la théologie pratique, c'est en fait l'édification de l'Église. C'est pourquoi elle résume tous les autres domaines de la théologie. Alors, on trouve dans la théologie pratique, un certain nombre de subdivisions. Il y a d'abord l'homélitique. L'homélitique, c'est-à-dire l'art de la prédication. Et dans les facultés de théologie, on fait l'homélitique, c'est-à-dire en disant comment construire une prédication et aussi comment la prêcher. C'est ce que nous faisons aussi. Il y a ensuite, pour ce qui concerne les églises historiques qui attachent une très grande importance, tout un domaine qui concerne la liturgie. Alors, comment organiser le culte? Et dans ce domaine-là, on trouve aussi l'hymnologie, c'est-à-dire ce qui concerne la musique et le chant chrétien. Là, ce sont souvent des spécialistes qui se livrent à ce genre de recherche et qui, de temps en temps, proposent aux églises des nouvelles formules liturgiques qui tiennent compte des évolutions, des énoncés dogmatiques, qui tiennent compte de l'évolution de la doctrine, etc. etc. Bon, pour ce qui concerne l'hymnologie, en milieu protestant, depuis la Réforme, on n'a pas fait grand-chose à ce niveau-là. On se contente en général de chanter la musique du XVIe siècle, les psaumes de Boutinel, etc., qui ne sont pas dépourvus d'intérêt, loin s'en faut, mais enfin, qui quand même, au XXe siècle, sont un petit peu dépassés. Et dernièrement, au niveau de la Fédération protestante, on a essayé de faire un effort important pour essayer de trouver des formes musicales et chanter plus nouvelles ou plus adaptées. Le Saint-Esprit inspire des hommes qui vont composer des chants. C'est tout à fait normal. Le Saint-Esprit, nous voyons ça déjà dans le Nouveau Testament, inspire des hymnes, dit l'apôtre Paul, chantés dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et souvent, les réveils donnent lieu à une floraison de chants nouveaux. Je pense par exemple au réveil du Pays de Galles, finalement, ce qui a été ce qu'on appelle l'hymne national du réveil du Pays de Galles, c'est un cantique qu'on chante encore devant l'amour de grâce, qui est un cantique qui a été composé par des mineurs chrétiens, qui se trouvaient au fond d'une mine dans laquelle il y avait un coup de grisou, qui était emmuré, qui était considéré comme perdu. Et il y avait quelques chrétiens de ces mineurs qui ont dit à leurs camarades, eh bien, nous sommes devant la mort, peut-être que nous ne reverrons plus la lumière du jour, convertissez-vous. C'est les païens qui étaient là, se sont convertis dans cette circonstance-là. Et puis en attendant les secours, n'ayant rien d'autre à faire, ils ont prié. Et puis soudain, quelqu'un a été inspiré par le Saint-Esprit, a composé ce motif devant la nouvelle grâce. Et finalement, les sauveteurs ont été guidés, n'est-ce pas, par le chant de ce cantique qu'ils entendaient au travers des aiguilles, et quand ils sont sortis de la ligne, n'est-ce pas, c'était en chantant ce cantique, qui est devenu l'hymne national du pays de Galles, n'est-ce pas. Bon, ça c'est un cas parmi d'autres, mais par exemple, de nombreux cantiques que nous trouvons, par exemple, dans les aides de la foi, ont été composés aussi au moment du réveil de l'armée du salut, ont été composés au moment du réveil de la croix bleue, au moment de toutes ces œuvres, n'est-ce pas, qui ont été conduites en leur temps par le Saint-Esprit et qui ont produit, n'est-ce pas, cette grande floraison de cantiques nouveaux. Bien, ensuite, nous trouvons toujours dans la théologie pratique un domaine qui intéresse aussi beaucoup les églises historiques, la catéchèse, les églises évangéliques, c'est-à-dire l'enseignement, en fait, on peut le qualifier, l'enseignement, notamment aux enfants et aux jeunes. C'est ce que nous appelons, nous, l'école du dimanche, si vous voulez. Et là, il y a en général des commissions de théologiens qui se penchent sur le matériel pédagogique qui va être mis à la disposition des églises. Et, bon, en fait, il n'y a pas besoin d'être spécialement théologien pour élaborer des revues de ce type, mais enfin, dans les milieux réformés et luthériens, on tient compte, nous, à ce que ce soit vu et supervisé, justement, par des théologiens, ceux qui n'engagent pas, que très souvent, d'ailleurs, précisément du fait même de cette intervention des théologiens, il y a des erreurs doctrinales énormes dans le matériel pédagogique qui est mis à la disposition des églises réformées et luthériennes. Nous trouvons ensuite un autre domaine de la théologie pratique qui concerne l'évangélisation et le travail missionnaire. Seulement, le problème, c'est que dans les séminaires, on parle beaucoup d'évangélisation et on en fait peu. Il y a beaucoup de théories sur l'évangélisation, il y a beaucoup de doctrines de l'évangélisation, mais dans la pratique, il faut reconnaître que les églises luthéro-réformées ne font pratiquement aucune évangélisation. La mission est aussi une discipline de la théologie pratique qui était beaucoup plus développée, bien entendu, pour des raisons évidentes, dans les facultés de théologie évangélique, par exemple à Vaux-sur-Seine ou à Aix-en-Provence, ou dans les grands instituts théologiques américains évangéliques. Alors il y a des chaires de missiologie qui consistent à apprendre aux futurs missionnaires comment exercer leur ministère. On leur apprendra par exemple à respecter la culture du peuple qu'ils vont évangéliser, à ne pas plaquer leur culture d'occidentaux sur la culture indigène. Essayer de découvrir, n'est-ce pas, les moyens dans la culture du peuple qu'ils vont aborder, qui leur permettront de transmettre le message de l'Évangile, bien entendu, sans défigurer. En quelque sorte, c'est essayer de mettre en pratique ce que Paul disait, qui est le grand principe missionnaire, eh bien, je me suis fait tout à tous. Si vous lisez un livre comme, par exemple, comment c'était le livre, là, de... Oui. L'éternité en leur cœur. Bon, eh bien, voilà un homme, justement, qui a fort bien compris ce qu'était le principe de base, justement, de la mission. Et je crois qu'il est d'ailleurs quelqu'un qui enseigne la missiologie dans une des écoles bibliques au Canada, je crois. Je crois qu'il dit ça. Bon, alors ensuite, il y a maintenant des chaînes de l'œcuménisme, étant donné l'essor du mouvement œcuménique. Aujourd'hui, il y a des chaînes d'œcuménisme dans un certain nombre de facultés de théologie. Nous trouvons ensuite un chapitre qui concerne le gouvernement de l'Église, comment diriger une Église, c'est d'apprendre ça au futur pasteur. Un chapitre qui concerne le ministère et les ministères, il faut dire qu'en milieu luthéro-réformé, ça bajoule pas mal à ce niveau-là, et même beaucoup plus que moi. Les problèmes de discipline, et là, bien entendu, il s'agit de disciplines des différentes églises, notamment dans les instituts théologiques tels que Paris, Montpellier et Strasbourg. Il y a les deux disciplines qui sont enseignées, la discipline luthérienne et la discipline réformée, puisque il y a à la fois des étudiants qui viennent des deux horizons, n'est-ce pas ? Les baptistes qui sont là, ils se débrouillent comme ils peuvent, rien n'est prévu pour eux, n'est-ce pas ? Ensuite, nous trouvons les problèmes de l'Église et du monde, rapport entre Église et monde. On disserte beaucoup là-dessus. Finalement, ça plane pas mal, ça atterrit peu, là aussi, dans le domaine. On étudie aussi la question de l'apostolat des laïcs, entre guillemets. Ça plane aussi beaucoup. Apostolat des laïcs. C'est-à-dire comment... Qu'est-ce que les laïcs peuvent faire dans l'Église, quoi, c'est en gros l'idée. Alors, il reste toujours, mais à l'échelon, je dirais presque vestigial, des chaires d'apologétique, c'est-à-dire comment défendre la foi chrétienne dans le monde moderne, et dans le monde tout simplement. Bon, c'est presque totalement négligé aujourd'hui, ce genre de d'études, qui pourtant ne serait pas sans intérêt. Et puis, alors, ces derniers temps, on a introduit, sous l'influence des sciences modernes, une chaire de sociologie religieuse dans la plupart des facultés de théologie. Voilà, nous avons fait le tour de ce que des études théologiques bien pleines peuvent apporter. Alors vous voyez que finalement ça recouvre la théologie, ça recouvre pas mal de choses. Pas mal de choses qui ne seraient pas toujours inintéressantes, loin s'en faut, n'est-ce pas, si on les prend en elles-mêmes, mais qui sont souvent, comme je le disais tout à l'heure, qui sont souvent viciés par, justement, la démarche philosophique qui souvent sous-tend toutes ces choses. Par exemple, si on prend, mettons, l'étude de la Bible, l'Ancien Testament, l'étude du Nouveau Testament, l'étude de l'histoire de l'Église, l'étude de l'archéologie, l'étude de la théologie pratique, de l'homélitique, toutes ces choses-là, bon, voilà des choses très très intéressantes que nous efforçons de faire d'ailleurs entre nous ici aussi, n'est-ce pas ? Mais c'est la démarche qui essaie de faire une synthèse de toutes ces choses qui fait que, en fin de compte, il y a à peine déviation, constamment. Pourquoi ? Parce que c'est le cadre aussi qui est mauvais. c'est la manière dont les choses sont envisagées comme un ensemble de sciences et de techniques au lieu d'une disponibilité au Saint-Esprit, d'une écoute de ce que le Saint-Esprit veut dire au travers de la parole de Dieu, sa direction du ministère. Alors, il est évident que s'il y a cette démarche-là, c'est certainement beaucoup plus valable. Mais ça ne peut pas être fait dans le cadre d'un institut théologique classique. Parce que le principe humain, c'est quoi ? Il faut reprendre cette démarche-là de manière tout à fait autre. Et finalement, c'est ce que modestement nous essayons de faire aussi ici. Voilà. Est-ce que vous voulez poser quelques questions maintenant sur tout ce grand exposé de ce qu'est la théologie, qui nous permettra d'ailleurs de faire la transition avec la doctrine. Parce qu'on va commencer, on a dit qu'on a commencé la doctrine dans les cours qui suivent. Donc ici, ça nous servira aussi d'introduction à cette étude de la doctrine. Bien, est-ce que vous voulez poser une question ? De 3, 4 ans, 5 ans parfois, quand on pousse vraiment certains instituts américains. En général, 3, 4 ans.
On voit toutes ces disciplines.
On devrait. Dans la réalité. C'est un peu comme l'enseignement moderne. Je me souviens quand on avait été à la. Une enquête avec la théologie il y a 12-13 ans, avec devant un échantillon très choisi d'étudiants, les meilleurs, il y avait sur les tableaux des classes dans lesquelles on déambulait, et des grands slogans à la gloire de Mao, c'était au début des années 70, on n'était pas loin de l'année 68, alors il y avait des grandes déclarations marxistes, etc. Bon, j'ai l'impression que. À Vaud peut-être, Vaud et Aix-Louis, là peut-être, c'est plus sérieux, mais à Paris, Montpellier, Strasbourg aussi, parce que Strasbourg c'est une faculté d'État, donc c'est concordataire à Strasbourg, donc ils sont en train de programme. Donc ils sortent de faculté de Paris, Montpellier aujourd'hui, hein. C'est léger. Ils passent leur temps à discuter avec les profs, c'est ça. Alors, c'était tout à fait intéressant de voir. Il y en avait à l'époque, en première année, quelques dizaines, quoi. Pas énormément, entre 30 et 50, quelque chose comme ça, quoi. 60 maximum, mais là, je suis très optimiste. Je ne sais plus des chiffres exacts. On l'a marqué déjà dans cette expérience-là. Et en quatrième année, eh ben, ils se retrouvaient 8 ou 10, quoi. Alors, on avait titré notre article comme ça, à la faculté de théologie de Paris, quel but poursuit-on ? Point d'interrogation. Et on avait commencé un article comme ça. Est-ce que le but, quelque chose comme ça, est de faire perdre la foi aux étudiants ? Vous savez, il y a un pavé dans la mare épouvantable. L'état-major de la faculté s'était rassemblé d'urgence dans les 2-3 jours qui avait suivi la publication d'expérience pour essayer de faire un contre-feu rapide. Ça fait longtemps. C'est sûr que c'est pas glorieux. C'est pas glorieux. Quelles sont vos bases, monsieur Dion, après vos 4 années d'études, où en êtes-vous quand on a posé la question. Alors, il y avait un étudiant noir qui était là. On a eu un truc comme ça. Qui lui alors avait, bon, sont dans des églises quand même indigènes qui ont une certaine foi, une certaine expérience avec Dieu. On sentait que c'était un homme déjà qui était plus un tout jeune, c'était plus un jeune homme, il avait une trentaine d'années déjà, donc il avait eu ce qu'on appelle dans les milieux réformés une vocation tardive, et puis bon, C'était un homme qui savait pourquoi il avait engagé ces études-là, et puis qui voulait vraiment servir Dieu. Quoi. Alors, il avait une certaine dimension de foi évangélique, il en a rendu témoignage très bon. Quoi, hein. Et puis alors, ensuite, les étudiants européens qui étaient là, ils étaient trois. Ils nous avaient choisi une fois les quatre meilleurs. Alors, il y en avait un, comme ils sont tous de parler, il avait dit « Ah ben, votre question, elle me prend complètement à découvrir. Ben, c'est vrai. Question de base, qu'est-ce que je crois ?» Ben, je ne sais pas. Dans le fond, je ne sais pas. Je ne sais pas. Puis dans le fond, si l'entretien part comme ça, ben, moi, j'ai rien à dire. Et puis, il se lève, il s'en va. Alors, il y avait une demoiselle qui était là, d'un certain âge, qui nous dit comme ça, « Ah ben, vous savez, moi, moi, j'aime bien parler, en effet, elle avait la langue bien mendue. Alors, comme le pastorat, c'est un métier où on parle beaucoup, ben, j'ai choisi d'être pasteur. C'était le commencement et la fin de sa vocation. Donc, le troisième, c'était mon cousin, d'ailleurs. Et il avait une phrase lui aussi. Tout ce qu'il disait, mais c'était pas extra. Alors, on avait mis ça à une extension de l'expérience. Les quatre lumières de la faculté de théologie. Ça avait fait mal. Ça avait fait mal.
C'est quoi la théologie scolastique?
C'était la théologie catholique du Moyen-Âge. C'était la théologie de Thomiste, saint Thomas d'Aquin. Donc, toutes les. Comment est-ce qu'on appelle ça? Il y a un mot spécial. Enfin, il y a un mot pour désigner les discussions qu'il y avait là-dessus. Comment? La rhétorique, c'est la manière de. Enfin, c'est une technique de raisonnement, quoi. À partir de prémices. Tu développes le raisonnement, alors on apprenait aux étudiants à partir de tirer les déductions quoi, d'une proposition théologique, alors ils dissertaient là-dessus, puis ils tiraient les déductions, etc. Alors, par exemple, c'est comme ça que tu prouvais, je ne sais pas moi, l'Immaculée Conception, par exemple, à partir d'un texte du Magnificat, mettons, tu vois. Bon, à partir de ça, prouver l'Immaculée Conception. Alors il y avait tout un raisonnement philosophique qui n'avait plus rien de biblique. Quoi. Et c'est contre ça que les réformateurs se sont opposés en disant ben là, cette théologie-là ajoute à la parole de Dieu toutes sortes de choses qui sont tout à fait étrangères. Bien, est-ce que vous avez posé une question avant qu'on aborde, puisqu'il nous reste un petit quart d'heure. Bien, alors, on va aborder maintenant la théologie moderne. C'est la théologie moderne, les grands courants actuels de la théologie. De façon à comprendre justement cette évolution de la théologie protestante, et puis son état actuel qui est tout à fait lamentable, en fin de compte. On peut dire qu'il n'y a plus de théologie aujourd'hui officielle. En dernière sorte, dans le monde protestant. Alors, pour comprendre la théologie moderne, il nous faut remonter au XVIIIe siècle. Je faisais allusion tout à l'heure, et plus particulièrement à Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, philosophe laïque d'origine protestante du XVIIIe siècle, qui avait élaboré un système philosophique à partir de l'idée de nature. Pour lui, la nature était première. Et quand il parlait de nature, ce n'était pas simplement les fleurs, les petits oiseaux, les arbres, etc., mais c'était aussi la nature des êtres, la nature profonde des êtres, notamment la nature humaine. Et nous devons à Rousseau une idée force qui n'a pas cessé de faire fortune encore à notre époque, non seulement dans les milieux religieux, mais également dans les milieux laïcs, c'est que l'homme naturel, la nature de l'homme, donc, est bonne, et non pas pécheresse et mauvaise, comme le disait la Bible. Et en cela, bien entendu, il prenait position contre une des affirmations essentielles de l'Église sainte. Tout à fait étonnant d'ailleurs que la théologie moderne protestante ait repris cette idée qui est foncièrement anti-biblique. C'est ainsi. Par conséquent, Rousseau nie qu'il y ait, que l'homme soit naturellement pécheur. Ce qui ne veut pas dire qu'il nie l'existence du mal et que l'homme puisse être pécheur dans ce sens qu'il commette ce qui est mal. Mais s'il commet ce qui est mal, ce n'est pas parce qu'il y a une nature mauvaise qui le pousse à commettre le mal, mais c'est parce que les circonstances dans lesquelles il est plongé le poussent au mal. Il n'est plus cet homme dans son état naturel. Voilà où est l'origine de tout le mal. C'est que l'homme n'est plus dans son cadre et dans son milieu naturel. Sa nature profonde, qui est bonne, n'a plus la possibilité de s'exprimer, elle est réprimée par toutes sortes de contraintes extérieures, d'ordre social, d'ordre économique, d'ordre éducatif, et j'en passe et des meilleurs. Par conséquent, il faut lever ces contraintes, lever ces inhibitions qui empêchent l'homme de s'épanouir. Il s'agit de remettre l'homme dans les conditions naturelles qu'étaient les siennes, et nous aurons une société idéale. Nous aurons un homme parfait. Donc, pas besoin, bien entendu, de rédemption, pas besoin de Jésus-Christ, pas besoin de révélation. Pour atteindre ce but, Rousseau se propose deux moyens. Premièrement, l'éducation. Et Rousseau écrit un traité d'éducation qui intitule L'Émile. L'enfant fictif dont il a la charge s'appelle Émile. Et puis ensuite, il propose une réorganisation de la société. Les contraintes qui rendent l'homme mauvais étant essentiellement d'ordre éducatif et d'ordre social. Notamment, il faut permettre à l'homme de vivre librement, et en ceci, Rousseau est un philosophe de la liberté. La société ne peut être construite que sur un consensus des citoyens qui la composent, qui conclut un pacte, un contrat les uns avec les autres, par lequel ils délèguent leur autorité à un certain nombre de représentants. C'est toute la notion de démocratie que l'on trouve derrière. Mais en fait, c'est le peuple qui est souverain. On trouve là, bien entendu, les idées fortes qui ont fait la Révolution de 89. En ceci, Rousseau est vraiment le père de la Révolution de 89, donc de toute l'idée moderne de démocratie, etc., qu'il n'a pas inventé, qu'il a repris des philosophes anglais, mais qu'il a élaboré, qu'il a systématisé. Alors, à ce niveau-là, ça peut être tout à fait valable, mais ce qui est ici à retenir, c'est pour nous, c'est deux choses. Premièrement, cette idée de la bonté naturelle de l'homme, que l'idée que le mal ne vient que des contraintes extérieures, et l'on voit précisément tout le parti que les philosophes qui vont venir ensuite vont tirer de cette idée fondamentale, de cette intuition fondamentale de Rousseau. Je pense à des hommes comme Freud, par exemple. Freud qui va construire sur l'acquis de Rousseau. Freud dira, non seulement l'homme est mauvais parce que il y a eu une éducation qui n'est peut-être pas ce qu'elle aurait dû être, parce qu'il est soumis à des contraintes sociales, mais parce qu'il est, il est aussi soumis à des conditionnements inconscients. Il est soumis à des tabous essentiellement religieux, dont il faut le libérer. Voyez-vous ? Et toutes les pédagogies modernes, qu'on trouve par exemple dans la Feuf, dans tout ce que nous avons combattu en son temps, pas, parle de cette idée fondamentale de la philosophie de Rousseau sur la bonté naturelle de l'homme. Lénine, par exemple, parle de cette idée-là, et par conséquent, il faut permettre à l'enfant de se développer, de développer lui-même ses propres potentialités. Donc, Rousseau préconise une éducation laxiste. Et l'éducation laxiste que nous trouvons aujourd'hui, nous la donnons à Rousseau. Aux idées de Rousseau. Les pédagogies modernes sont basées sur cette éducation-là, même si, évidemment, ce qu'on propose aujourd'hui dans ces pédagogies-là est certainement très très différent de ce qu'on trouve dans les livres. Mais l'idée de base reste. On trouve aussi cette même pensée chez Marx. Marx reprend aussi cette idée. L'homme est naturellement bon s'il y a des guerres, s'il y a des injustices, etc. C'est parce que la société n'est pas organisée comme elle devrait l'être. Mais instituons une société sans classe où il n'y aura plus de possibilité pour l'homme d'opprimer son prochain parce que les moyens de production auront été confisqués, seront passés des individus à la collectivité, où il n'y aura plus de pouvoir, puisque c'est le but final de Marx, n'est-ce pas, c'est l'anarchie, c'est-à-dire l'absence d'autorité. Puisque l'homme est bon, il peut donc se conduire lui-même, il n'a pas besoin d'autorité. Par conséquent, le système marxiste cherche à faire évoluer la société d'un système autocratique à un système anarchique, n'est-ce pas, où plus personne n'exercerait l'autorité. Alors, pour commencer, il faut confisquer toutes les autorités et puis instituer une dictature. Après ça, on verra. Mais on commence par ça. C'est un peu paradoxal. Mais enfin, le but est celui-là. Puisque l'homme est bon, il peut se conduire lui-même. Et quand on aura éduqué l'homme par le moyen de la dictature, quand on l'aura éduqué et quand on l'aura mis dans des conditions économiques où il n'aura plus à convoiter, parce que chacun aura suffisamment selon ses besoins, il n'y aura plus besoin d'autorité, il n'y aura plus besoin de pouvoir, et nous aurons affaire à une société idéale, à la joie, paradis. Voilà. Ça vient de Rousseau en droit pays. Revu et corrigé par Marx. Maintenant, nous trouvons une autre philosophie, aussi, qui est à l'origine de la théologie moderne, c'est une philosophie qui a fait fureur au XIXe siècle, qui continue aujourd'hui aussi à faire sentir ses effets, c'est l'idée de progrès. Au XIXe siècle, vous savez, c'est l'âge de... C'est l'époque où les effets de la révolution industrielle qui avait commencé au siècle précédent font sentir leurs effets. C'est l'époque où on construit la machine à vapeur, l'industrialisation à grande échelle, etc., et où l'humanité, ou plus exactement le monde occidental, a l'impression qu'il marche de progrès en progrès. Et c'est exact que sur le plan technique, il y avait une évolution de ce type. Et les philosophes de cette période ont absolutisé cette réalité du progrès technique pour expliquer finalement tout le système du monde. Et il y avait cette idée chez les philosophes qu'on appelait ici les philosophes positivistes du XIXe siècle, que l'humanité était partie d'une forme très simple pour se complexifier de plus en plus et pour aller de plus en plus vers un mieux, non seulement sur le plan technique, mais également sur le plan moral. Le progrès était devenu une valeur philosophique. Le progrès, qui était une réalité indiscutable sur le plan de la technique, était maintenant élevé au rang d'une valeur. Valeur quasi religieuse. Et un homme a, par exemple, sur le plan de l'anthropologie et de la zoologie, finalement, utilisé cette idée, c'est la rue. Et puis un autre homme du même type, Lamarck. Pour Darwin, n'est-ce pas, non seulement l'homme, mais les espèces animales, le monde, avaient évolué des formes les plus simples vers les formes les plus complexes, dans un progrès constant. Les formes les plus élémentaires de la vie, l'amibe, les algues, les lichens, etc., ayant donné naissance par évolution successive, expliquée par la lutte pour la vie, la disparition des plus faibles, des mutants les plus faibles au profit des mutants qui avaient les mutations les plus valables, n'est-ce pas, donnant naissance ensuite aux différentes espèces végétales, puis aux différentes espèces animales, pour aboutir aux singes, et ensuite pour aboutir par l'intermédiaire des fameux chaînons de manquants qu'on n'a jamais trouvé jusqu'à ce jour, à l'homme, n'est-ce pas, l'homme singe, l'homme de Néandertal, de Cro-Magnon, et puis l'homo sapiens. Et puis demain, n'est-ce pas, pourquoi pas un homme parfait, un homme idéal, parce qu'il n'y a pas de raison que l'évolution s'arrête. Et c'est aussi une idée qu'on retrouve dans la plupart des systèmes philosophiques actuels. Nous aurons l'occasion de voir comment un homme comme Teilhard de Chardin, par exemple, a essayé tout à fait dans la perspective catholique, qui est toujours une pensée synthétique, n'est-ce pas, de rassembler tout cela et de l'amalgamer avec la foi chrétienne. Teilhard de Chardin dit, ben bien sûr, c'est comme ça. Et l'homme idéal, la mutation de l'homme de demain, moi je peux vous dire ce qu'elle est. Il y a déjà eu un mutant, c'est le Christ. Ben oui. Le Christ qui rassemble tout. Et finalement, si l'Église chrétienne se fait force d'appoint de l'humanisme, qui est le résultat de ce progrès, cette fois-ci sur le plan spirituel et moral, eh bien demain, l'humanité va aboutir à ce qu'il appelle le mystérieux point oméga, c'est-à-dire cet endroit où le Christ, le mutant idéal, rassemble tout en lui-même. Voyez-vous jusqu'où a été cette idée? Bon, Teilhard de Chardin a eu son heure de gloire, il est aujourd'hui un peu passé de mode, même dans les milieux catholiques, mais il y a cette idée sous-jacente. Et cette idée a permis en particulier de réinterpréter le messianisme. Car le messianisme, aujourd'hui encore, dans la plupart des églises, des grandes églises, où l'on a abandonné la vision de la parousie,